Bonjour Monsieur Eric, bonjour les auditeurs, ils sont sûrement très nombreux, hein, comme d'habitude.
Comme d'habitude. Hein.
On ne sait pas combien il y en a, mais il y en a sûrement beaucoup.
Des milliers, hein, des milliers, hein, des milliers. Hein. Surtout que la moto est en pleine expansion en ce moment, on voit bien que tout le monde suit les GP, tout ça, tout le monde y croit.
Et on a deux super champions, on en parlera tout à l'heure, mais bon, hein, qui motivent un petit peu toutes les troupes, quoi.
Et en ce moment, c'est pas mal, ouais. Alors, l'émission d'aujourd'hui, c'est sur quoi ?
Alors, l'émission d'aujourd'hui, c'est sur deux Montois qui veulent participer au Paris-Dakar en 2023. Donc, je prends janvier 2023, quoi.
C'est quoi ? C'est dans 8 mois, ça, à peine ?
Voilà. Ils sont déjà passés chez Jeannot, mais bon, plus sur le côté finance, un petit peu de leur histoire. Et on est allé les interviewer pour avoir plutôt le côté technique, le côté préparation physique, etc. Donc, ils vont participer, s'ils arrivent à boucler le budget, à la prochaine édition du Paris-Dakar. Paris-Dakar qui a été fondé en quelle année ?
Alors, tu as travaillé, toi. Ouais, c'est ça. 77.
77, non, c'était pas le Paris-Dakar, c'était Paris-Abidjan.
Paris-Abidjan, ouais, mais c'est ça qui avait donné l'idée.
Voilà. À... Et donc, c'est 78. Combien de participants cette année-là ?
En 78, ouais. Je sais pas, 600 ?
Non, on était à 170 participants.
170 participants en 78.
170 participants. Donc, l'idée, c'était quand même Paris-Dakar, donc Europe-Afrique. Ils ont toujours gardé le nom. Après, ils sont partis sur d'autres pays qui ont été, et d'autres continents, donc ça a été...
Ben, ça a été l'Amérique du Sud.
Ouais, l'Amérique du Sud, 2009-2019.
Et le Qatar.
Et donc l'Arabie Saoudite à partir de 2020. Quoi. Voilà. Maintenant, tu sais combien c'est de véhicules ? Tu sais, on était à 170.
170 pour démarrer.
Ouais.
Bah, j'avais lu un truc comme quoi il y avait 3000 personnes qui étaient aux étapes à peu près. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui, 2022 ou pas ? Je ne sais pas.
Alors, combien de véhicules ? 1100 véhicules.
1100 véhicules.
7 hélicos et 4 avions.
C'est du grand n'importe quoi.
Un budget grosso modo de 60 000 euros pour une participation, dont 14 000 euros de frais d'inscription.
60 000 euros par pilote.
Voilà, par personne qui s'engage sur le Dakar.
D'accord. Et donc là, les deux poteaux vont nous expliquer tout ça.
Voilà, ils vont surtout parler un petit peu de leur machine, de la préparation physique et de tout ce qu'ils peuvent faire avant un pareil Dakar.
Et je suppose qu'ils doivent chercher un peu d'argent encore.
Bien sûr.
Donc, parce que 8 mois, ça va aller vite quand même.
Oui. Alors, ils ont un premier rallye. Et, bon, ils vont l'expliquer, mais ils sont obligés de faire un premier rallye pour pouvoir se qualifier, pour être engagé sur le Dakar. C'est-à-dire que si tu ne fais pas un autre rallye qui est sur un listing bien précis, et si tu ne le termines pas, tu ne peux pas t'engager au Paris-Dakar.
D'accord. Et ce prochain rallye, donc, ça sera
au Maroc, octobre.
Et c'est quoi, un rallye d'une semaine, c'est quoi ?
Ouais, je crois que c'est une dizaine de jours, quoi.
D'accord. Bon, ben on va les écouter et puis on revient après, quoi.
Et on revient après et on se fait une petite musique entre-temps. Donc c'est Hugo et Eric, les deux participants. A priori, ils seraient les premiers Montois à participer au Paris-Dakar en moto. Il y aurait eu des expériences en voiture, mais en moto, on a fait des recherches. Pour le moment, on n'a trouvé personne qui aurait participé au Paris-Dakar.
En voiture, ça s'est déjà fait.
Ouais, par des Montois. Et donc là, ils ont choisi comme musique Desert Rose de Sting. On se retrouve tout à l'heure.
Donc on écoute ça en direct après et on revient sur l'oreillette des moteurs. Ok, à de suite.
MDM.
Carbut 40, une nouvelle émission. Alors cette fois-ci, je suis chez Motodef et je suis avec deux futurs participants du Paris-Dakar, donc 2023. Alors, vous allez vous présenter. Donc, qui est-ce qui est avec moi ?
Bonjour à tous, c'est Eric Brodel, gérant de l'entreprise Motodef.
Et Hugo Gomez, gérant d'entreprise Sans Rider School, école de pilotage moto.
Donc, des connus un petit peu de Carbut 40 aussi, qui sont déjà venus dans d'autres émissions pour d'autres sujets.
Exact.
Alors là, donc, qu'est-ce qui vous a pris de vous engager sur une épreuve comme le Paris-Dakar ?
Une folie. non, pour ma part, moi, c'est, comme je répète souvent, c'est un rêve de gamin, comme je pense beaucoup. Et après, voilà, c'est une aventure qui est extraordinaire. Hein. Déjà, ce serait-ce que pour les préparatifs, qui sont déjà importants, la préparation de la moto, le dépassement de soi-même sur une épreuve comme ça, parce qu'on fait 8 à 10 heures de moto par jour.
Donc la préparation du bonhomme aussi, quoi.
La préparation du pilote, bien sûr. Et voilà, donc ça va être une aventure énorme.
Première grosse expérience, je dirais. Est-ce que tu as déjà fait, par exemple, des rallyes un peu plus soft, je dirais?
Non, moi, jamais de rallye, enfin, du moins en tant que pilote. Un rallye en tant que mécanicien, quand j'étais salarié de l'entreprise de mon patron précédent.
Et jeune.
Et jeune, oui. Donc, c'est la seule expérience que j'ai en rallye. C'est un peu nouveau pour moi, surtout la navigation. Mais bon, j'ai discuté avec pas mal de gars qui ont déjà fait plusieurs Dakar, qui m'ont dit que finalement, la navigation, c'était pas si transcendant que ça non plus. Donc, il y a des traces. Hein, donc,
Est-ce qu'on se forme pour la navigation, par exemple? Est-ce que tu vas essayer de faire un stage ou, je veux dire, non, c'est à l'arrache?
Ouais, pas vraiment à l'arrache. J'espère qu'on va pouvoir partir avant le rallye du Maroc, faire peut-être une semaine justement peut-être en Espagne ou au Maroc pour pouvoir appréhender ce roadbook qui est un petit peu la bête noire de tout le monde. Mais je pense que voilà, ça sera cette semaine-là où on va découvrir un petit peu tout. Et puis
donc, parce qu'il faut spécifier que donc vous allez faire le rallye du Maroc avant. C'est une obligation si on veut participer au Dakar, hein, c'est ça?
Ouais. Ouais, il faut finir un rallye qualificatif pour le Dakar, que ce soit le Maroc ou d'autres rallyes là qui sont qui comptent pour le Dakar.
Donc si tu le finis pas, tu peux pas y participer?
Non, on ne peut pas, non.
D'accord. Donc obligation de finir le rallye du Maroc.
Oui.
Même si on casse, etc., par exemple, c'est éliminatoire.
Même si on se casse la jambe ou un bras, on finira le rallye comme ça. Il faut rallier l'arrivée.
Il faut surtout que la moto, elle casse pas non plus.
Il faut que la moto casse pas.
D'accord. Hugo?
Oui, mais moi,
c'est quoi alors, toi?
C'est un peu pareil qu'Eric. Moi, c'était une chose qu'on avait parlé avec mes parents déjà quand j'avais eu mes 18 ans. Sauf que c'était un peu tôt encore. Et pas les moyens. Là, avec Eric, on s'est motivé là depuis ça fait 2 ans qu'on en parle. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit ben on va le faire. Donc pareil, hein, c'est le dépassement de soi, se rendre compte à quel point ça doit être dur de le faire. Donc ça, moi, la navigation, ça me fait un peu moins peur. C'est plus.
T'as déjà été sur un bateau, quoi, c'est ça?
Non, mais j'ai le sens de l'intention. Je m'inquiète pas trop, moi, pour la navigation. C'est juste pour le pilotage à l'aveugle. Ça, j'ai un peu de mal. Pas savoir. Moi, j'ai l'habitude des circuits où on tourne en rond, on sait où on va. Uh-huh. Voilà, donc passer à 140 ou 160 dans une ligne droite où on sait pas s'il y a un trou, s'il y a quelque chose, c'est quelque chose qui. Ouais. J'ai un peu de mal, mais peut-être que ça va venir et que, voilà, ça deviendra naturel. Et puis voilà, non, comme Eric, je pense que il y a moyen de vraiment s'amuser. Ça va faire au moins une fois, je pense, dans la vie d'un pilote. Et je pense qu'après, sur plein de domaines, je pense qu'on voit les choses différemment après.
Et le fait, je pense aussi peut-être d'être deux, ça vous motive l'un et l'autre?
Oui, ça nous tire. Si on a une galère, c'est toujours mieux d'être à deux, hein. Si la moto est en panne, bah à deux on réfléchit mieux. Voilà, c'est une épreuve qui est tellement éprouvante physiquement, mentalement, que on n'a pas toujours peut-être la solution sur le moment. Et peut-être le fait d'être deux, ça permet de réfléchir un peu mieux, plus posé. Et puis s'il y en a un qui est en panne, on aura une sangle et on tire la moto. Hein.
Donc là, vous êtes, on est à, on va dire à peu près à 7 mois du départ. On en est où de la préparation? Est-ce qu'il faut une préparation physique aussi? Est-ce que vous avez entamé ça depuis un certain temps ou vous avez déjà la caisse naturellement?
Non, on n'a pas la caisse naturellement. il faut s'entraîner différemment parce que, comme Hugo l'a dit, on est habitué à rouler sur des terrains de cross où on fait des manches de 15-20 minutes intensifs. C'est un peu. C'est tout de suite sur le moment. Là, le rallye, c'est plutôt dans la durée. Donc c'est du cardio, c'est du renforcement musculaire. Voilà, essentiellement, pour ma part, c'est du vélo, des grosses sorties vélo et du renforcement musculaire. On a pris un préparateur qui est David Garcia, qui fait le programme physique donc, depuis septembre, à peu près. Donc,
Et tu sens la progression? Vous sentez la progression?
Ah ben lui, il doit la sentir, pas moi, parce que moi, j'ai rien fait encore. Moi, je suis très occupé par mon boulot. Je viens de monter ma société il y a un an et demi. Donc, j'ai du mal à trouver encore l'équilibre pour pouvoir trouver le
temps. Donc, c'est lui qui sera du côté de la sangle à tirer, quoi.
Ouais, lui, il va tirer la sangle, je pense. Non, mais après, ça va venir. On a fait une sortie une fois un peu endurance. On a fait des marches de 3/4 d'heure. J'étais agréablement surpris par la condition que j'avais sur le coup. Donc je pense que ouais, une fois que je vais m'y mettre, je pense au bout de quelques sorties, ça devrait revenir et on sera pas mal.
Alors, donc là, on a parlé un peu des pilotes. Maintenant, on va parler un petit peu des machines. Qu'est-ce que vous avez pris comme machine? Comment s'est porté votre choix sur telle ou telle machine? C'est par rapport à quoi? Par rapport un petit peu au fait que tu sois concessionnaire, je pense aussi?
Oui. Oui, c'est par rapport à ça, surtout, comme on est maintenant concessionnaire Gaz-Gaz, les motos du groupe autrichien, on a des motos de rallye. Là, cette année, on a eu la surprise, il n'y a pas très longtemps, que Gaz-Gaz sortait une moto de rallye. Le seul problème, c'est que le délai et le budget pour la commander, c'est assez important. Donc nous, on s'est orienté plutôt vers des motos d'enduro qu'on va équiper en version rallye. Et qui sera démontable à la fin du rallye pour qu'on puisse revendre les motos
et remettre en configuration d'origine.
D'origine, oui.
Alors, qu'est-ce que les principales modifs, c'est quoi?
C'est la tour de contrôle, tout ce qui est instrument.
Instrument, ouais.
Donc, support de
tête de fourche, tout ça.
Trip, quoi. Ouais. Le support de GPS. Les boutons de commande au guidon pour que ça soit beaucoup plus pratique. Mmh. Ensuite, gros réservoir additionnel à l'arrière pour avoir un minimum de 20 litres. Des bimousses pour pas crever. Des pneus spéciales désert. Transmission longue, acier, chaîne jointorique. Après, c'est des petits détails.
Suspension, on n'y touche pas?
Si, on y touche. Une suspension beaucoup plus dure que l'origine. Donc ça, pareil, on va faire déjà un premier jet. Cet été, on ira tester dans du sable. On essaiera de reproduire un petit peu les mêmes conditions qu'on va retrouver. Et puis après, ça sera des protège-mains, des choses comme ça, des poignées chauffantes et des moufles pour ma part.
Surtout pour lui.
Il fait le froid.
Ah, mais lui, c'est horrible.
Moi, j'ai froid.
Il a vite froid.
J'ai froid constamment, donc il me faut des poignées chauffantes.
Il compte sur moi dans la tente pour dormir avant.
Et donc, on sait où ça va se passer, le Paris-Dakar 2023?
On a une petite idée pour le moment. Enfin, on pense que ça sera l'Arabie Saoudite.
Donc là où ça se fait depuis 2 ans déjà, je crois, c'est ça?
Oui. Donc on saura là début mai, la destination et le début des engagements.
Et donc on va parler un petit peu sous, parce que j'imagine qu'il en faut. Donc c'est un budget de combien, hein, le Paris-Dakar?
On est à peu près à 140 000 euros pour deux, tout compris. Donc on a vraiment tout compté, les entraînements, les consommables sur les motos, les préparations des motos, les achats de motos, les licences, les engagements, l'assistance, parce qu'on va pas partir tout seul.
Vous serez en quoi? En mal? Qu'on appelle mal?
Non, on crée une structure pour pouvoir amener des mécanos avec nous, avec un fourgon. On a décidé de ne pas le faire en mal au moins la première fois parce que c'est trop dur. À mon avis,
C'est le fait de le soir de bricoler, c'est ça qui est trop dur.
C'est ça, il suffit de rentrer tard le soir. Si on a en plus quelque chose sur la moto à faire, on ne dort pas, quoi. Au bout de 3 jours, à mon avis, on ne tient plus. Sans dormir, c'est pas possible. Donc on va amener deux mécanos avec nous.
Donc ça veut dire 70 000 euros par personne, par pilote, près, ouais. Quoi. Ouais. Donc en comptant les mécanos, en comptant le rallye d'avant aussi.
Le rallye d'avant, ouais. Les entraînements, on a compté les pneus, les consommables, ouais. Tout ça sur une saison en gros pour pouvoir faire le Dakar.
D'accord. Et vous en êtes où alors par rapport à ça? Est-ce que vous commencez à réunir un petit peu le budget? Vous avez des gros sponsors?
Des gros, on a des sponsors. Après, on est toujours à la recherche. Du coup, on fait un appel si des gens veulent nous rejoindre. Donc voilà, on est toujours dans la recherche active de sponsors.
Est-ce qu'il y a des petites places sur le carénage pour mettre des autocollants encore?
Il y en aura.
Il y en aura, c'est sûr.
Même s'il faut en mettre sous le garde-boue, on trouvera de la place.
C'est ça, oui, on a une plaquette partenaire qu'on trouve sur notre page Facebook, c'est Motodef Rider Team.
D'accord, et il faudra que je la mettrai aussi sur la page de Carbut 40 par rapport à l'émission.
Et sur laquelle vous avez toutes les prestations commerciales qu'on propose en fait, parce qu'il y a aussi un échange.
D'accord. Pas juste par exemple.
On peut, en fonction du partenariat, venir chez le partenaire, par exemple, avec une moto complètement décorée pour la journée, juste avec son logo. Par exemple, pour un lancement de produit, ça peut être un concessionnaire pour une lancement de voiture ou n'importe quelle autre activité. On vient avec la moto, on l'expose avec la déco aux couleurs exclusives faites que pour la journée du partenaire. Et on est là, on anime un stand, les gens viennent, prennent des photos, on aura des posters, on a des choses comme ça. Et voilà, le but c'est qu'il y ait vraiment un échange et que les partenaires s'y retrouvent aussi derrière. Quelle que soit la forme, ça peut être de la pub sur la moto comme t'as dit, ça peut être un échange commercial, ça peut être un retour publicité sur les tenues, sur les réseaux, enfin voilà, le but c'est que tout le monde s'y retrouve.
Sur le véhicule aussi, on aura...
Sur le véhicule d'assistance aussi.
Oui. Qu'est-ce que vous avez comme véhicule d'assistance donc?
Bah, ça sera le Renault Master de chez Motodef qu'on va prendre et
d'accord.
On fera une déco spéciale pour le rallye dessus avec tous les sponsors qui vont nous aider.
Et je vois que j'ai vu en traversant le magasin aussi que pour les petits sponsors, ceux qui veulent sponsoriser petits et qui veulent en profiter pour boire un coup, il y a des belles bières avec des belles images sur les bouteilles. Hein.
C'est ça, on a fait des petits coffrets là en partenariat avec BNL.
BNL qui est
un brasseur qui est à l'ITMX, qui nous a confectionné.
Donc c'est de la bière locale quoi.
C'est de la bière locale.
C'est notre premier partenaire, c'est celui qui a répondu en premier.
Artisanal, on va dire.
Ouais, artisanal bio.
Ouais. Bio, ouais. D'accord. Ouais.
Donc c'est lui qui nous confectionne ça. Hugo a fait les étiquettes. Et du coup, on a ça, des petits coffrets à vendre au magasin.
Donc, dépêchez-vous, parce que moi, j'ai pris, je crois, un des derniers. Alors, si ça marche, il y en aura peut-être d'autres. Hein.
Oui, il va y en avoir d'autres.
Oui.
On a fait une première vague pour Noël, avec des coffrets un peu, avec des étiquettes de Noël, etc. Là, on va refaire une gamme avec d'autres étiquettes. Donc, au fur et à mesure de l'année, on refera d'autres étiquettes au fur et à mesure pour faire un peu une collection.
Ah, pour faire une collection. En plus, on est obligé d'y revenir. Quoi.
Exactement.
Non, mais c'est sympa. Et puis, bon, donc, c'est un petit geste voilà, qui peut vous. Au moins vous faire connaître aussi, parce que la bière, si on la boit avec les copains, ça peut faire connaître aussi le projet. Quoi.
Dessus, il y a le petit QR code, vous pouvez aller voir notre plaquette et tout directement. Enfin, tout est pensé pour que ça communique bien.
D'accord, donc là, il vous reste vraiment beaucoup, il vous manque beaucoup, beaucoup.
Bah oui, mais presque quoi. On n'a pas encore démarché les gros, entre guillemets. Parce que souvent, en fin d'année, quand on a eu plus le temps de le faire, on nous a dit c'est encore tôt par rapport à 2023. Donc du coup, on va se remettre en marche là, avant l'été, je pense.
Donc là, on arrive un petit peu à la fin de notre émission. Donc octobre, rallye du Maroc.
Exact.
Et je pense qu'on reviendra vers vous après cette épreuve pour voir un petit peu où vous en êtes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce projet?
Alors ouais, moi j'ai quelque chose à ajouter, c'est de parler un petit peu des membres de notre équipe, parce que on a toujours tendance à parler ou mettre la lumière sur les pilotes, mais il y a aussi toutes les personnes dans l'ombre qu'on ne voit pas, qui sont nos deux mécaniciens, moi pour ma part Jean-Michel Biquet, qui travaille avec moi tous les jours, qui sera mon mécano sur la rallye, Hugo Philippe Testas qui sera le mécanicien pour le rallye du Maroc et le Dakar. Et après on a nos deux filles secrétaires trésorières, pour ma part ma femme Caroline qui gère un peu tout le côté administratif.
Et la compta qui est tenue par Magali
et la trésorière Magali qui s'occupe des comptes. Voilà, merci à eux de nous accompagner.
On a parlé de coaching tout à l'heure physique, on a aussi coaching technique puisqu'on a Joanne Marié qui nous suit un peu et qui va nous faire quelques petits cours, leur donner quelques astuces pilotage pour pouvoir être encore mieux. Donc voilà, ouais, on a fait une bonne équipe, on est 10 en tout, du coup, 8. On est 8, voilà.
Bon, et ben, bon courage à vous. Et puis, on se retrouve, on se fera un petit coucou après le Maroc pour voir où c'est que vous en êtes, quoi. Et puis, ben, parfait. Tous ceux qui veulent aider ce projet, il me semble d'ailleurs que j'en ai parlé avec toi, Eric, que vous êtes les premiers Montois à tenter cette expérience, quoi.
J'en connais pas.
On a fait des recherches et apparemment, on est les premiers Montois à le faire.
Donc, et ben, ça souligne aussi comme, comme événement. Allez, salut tout le monde. Et puis, bon courage à vous.
Merci.
Ah bah voilà, ça fait longtemps que j'avais pas écouté ce petit sting.
Ah, hein, et ça envoie quand même, il paraît.
Bah ouais, comment ça il paraît?
Parce que moi je suis allé aux toilettes pendant que ça passait.
D'accord, okay. tu dis ça devant tout le monde.
Voilà, quoi. Bah oui.
Mais je savais pas que quand Thierry Sabine avait imaginé ce Dakar, c'est qu'il s'était perdu.
Ouais, il avait passé 3 jours dans le désert. Quoi.
Ouais, ouais. Ouais. Et après c'est sacrément couillu quand même de vouloir dire, tiens, je vais créer ça. Ça a été super vite, quoi. En fin de compte, en un an de temps, il a réussi à créer cette course, quoi, de Paris à Dakar, quoi.
Oui.
Avec toute l'orgue qui va avec. J'imagine bien quand tu organises un truc comme ça, avec les autorisations, les machins, les changements de pays.
Après, au début, c'était un peu à l'arrache, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il se retrouvait à la frontière, il décidait de passer, quoi. il venait, tout n'était pas prévisible, quoi. Et en fait, les participants étaient un petit peu aussi organisateurs, quoi. C'est-à-dire au tout début.
Et tu savais qu'il y avait un mec qui avait fait ça en Rolls-Royce?
Ouais.
Hein, impressionnant.
Ouais, ouais.
Et puis après, y a eu des grands noms, des artistes, tout ça, qui ont fait ça, mais bon.
Et quel est le plus titré en Paris-Dakar?
Moi. Non, c'est pas moi.
C'est Peter Hansel.
Peter Hansel.
Qui a gagné, je crois, 6 fois ou 7 fois en moto et 5 fois en voiture, quoi, un truc comme ça.
Ouais, quand
donc
même, ouais.
C'est le plus titré sur cette épreuve. Après, beaucoup râlent qu'on garde encore le même nom, puisque ça n'a plus rien à voir.
C'est vrai que tu es parti au
surtout
Dakar.
Surtout les Africains.
Enfin, au Qatar et pas au Dakar.
Et ils disent que c'est un petit peu une usurpation, quoi. Mais bon, voilà, c'est la vie. Hein, c'est
plus le même rallye, ouais. Il faut que ça évolue, quoi.
Voilà, voilà.
Et si on restait un peu sur nom Montois, puisqu'on a quand même Lucas.
Eh oui, alors Lucas, qui deuxième course.
Deuxième week-end,
Aragon,
ouais. Quatrième course,
là,
non,
c'est Assen, ouais.
Ouais, deux courses par week-end.
Et
à
alors,
chaque
il
fois.
Nous fait quoi, Lucas?
Eh ben, il est même pas dans les 10 premiers, quoi. Je crois que
non, il est aux environs de 13. Je crois que c'est 13 qu'il est. 13. Ouais.
Comme placé au résultat au championnat du monde, il est 14e.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Mais j'ai beaucoup de mal à trouver des commentaires, etc. Sur sur comment il ressent la moto,
aussi.
Sur sa conduite, sur ses ressentis, etc. Ouais. C'est vrai qu'on ne trouve pas vraiment d'infos. Quoi. T'as beau aller sur le site de GP. S'il y a des gens qui ont des infos, surtout qu'ils n'hésitent pas, quoi.
Ouais.
Qui viennent nous en parler, etc. Quoi.
Et donc, au niveau de course, toujours, on a en endurance, donc c'est les 24 heures du Mans qui viennent de se passer. Et donc, c'est Suzuki avec notre français Guintoli. Qui a terminé premier.
T'es vraiment à la retraite, toi. T'as le temps de tout suivre. C'est cool.
A suivi de Yam et de Honda. Bon, Kawa, ils ont cassé, donc ça a pris du temps et ils n'ont pas pu revenir en force. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Grand Prix de France bientôt, pour ceux qui veulent y aller. Hein, là, je crois.
Dans 15 jours.
13, 14, 15 mai, à peu près 15 jours.
Et puis la prochaine course.
Avec
qui est
deux tribunes. Une tribune Zarco et une tribune Quartararo.
Une grande première.
Ouais, ça devrait être joli, quoi. Hein. Bon, sachant que le Grand Prix de France, c'est en général un des Grands Prix où il y a le plus de monde, quoi. On est aux environs de 100 000 personnes le dimanche, quoi.
Non, mais la moto, ça attire pas de monde. C'est un truc qui marche pas.
Bah tiens, une petite anecdote, puisque j'y pense, c'est que On s'est rendu compte, des statistiques se sont rendu compte que dans 80%, 82% des voitures qui circulent, il n'y a qu'une personne.
Oui.
J'en viens aux ZFE, etc.
Le fait de rouler à moto et de diminuer la pollution, c'est bien évident.
Mais
quand tu, pour une personne, tu déplaces une tonne cinq, et pour une personne, tu déplaces 200 kilos, forcément.
Forcément, et ben non, mais ça, c'est pas entendu, quoi.
Non.
Hein, c'est pas entendu.
Enfin, messieurs des grandes villes.
Et donc en grosse manifestation quand même, une qui revient, qui à cause de la pandémie, qui n'est pas été là pendant 2 ans, c'est Moto Légende.
Ouais, ça y est.
Ouais, qui revient sur le circuit de Dijon-Prenois le 28 et 29 mai. Donc 25€ le week-end. Donc ça peut être une bonne balade.
Et sur Nogaro, tout ça, on n'a rien.
Nogaro, on a le Superbike français qui se fait le 7 et 8 mai. Donc la semaine prochaine. Week-end prochain.
D'accord. Des bourses?
Des bourses, non.
Non, pas de
rien
bourse, rien. Pas de...
Ceux qui veulent se prévoir.
Si, sur Bordeaux, je crois qu'il y a une bourse sur Bordeaux.
Au
nord des Gironde, ouais.
Et on va parler un petit peu du Grand Prix, quand même, de MotoGP.
Ouais, vite fait.
Alors vas-y.
Ben, moi, je me suis régalé.
Ouais.
Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une course comme celle-là.
Donc, c'était le Grand Prix de Portimao.
Ouais, voilà, au Portugal. C'est vrai que 2 jours d'essai sous la pluie et troisième jour au soleil, c'était vraiment pas gagné. Et puis, Quartararo, d'une force impressionnante, quand même, qui prend la course comme ça, qui attaque, et puis on le voit plus, quoi. Quand même, 5 secondes à la fin, 5 ou 6 secondes à la fin, ce qui est quand même énorme, quoi. Et puis, notre ami Zarco, qui fait chier avec ses départs, quand même.
Ouais, bon, mais il a bien parti, quand même.
Il perd encore 3 places.
Il est un petit peu chat noir, quand même. Ouais. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on a notre poulie d'or de la moto, quoi. Tu sais, ça m'embête pour lui. J'aimerais bien qu'il en gagne une, quand même.
Il va bien réussir à en gagner une. Mais ça va être compliqué. Mais quoi que les circuits européens, là, ils vont être faits pour eux. Et puis après, Zarco, il aime bien l'Australie, lui. Il a une grosse longueur. Une énorme longueur à 300 et quelques centimètres. Non, mais après, ouais, sur le Grand Prix en Australie, je pense que ça va être fait.
Bah, je pense qu'on va lancer un petit concours sur la page.
C'est marrant, j'y pensais parce que je me disais que ce serait bien qu'il y ait des gens qui nous fassent des pronostics.
Voilà, donc on va faire un concours de pronostics.
Ouais.
Et à la fin de la saison, celui qui aura mis. Donc on va demander les 3 du podium en GP.
En GP.
Donc ça sera sur Carbut 40, sur la page Facebook. Vous mettez votre nom et vous mettez dans l'ordre les 3 que vous verrez sur le podium en MotoGP fin de saison. Le gagnant.
Une date limite quand même.
Bah, parce que si. Après, oui. Ben, faut le marquer à la. On va dire, on va se donner 1 mois.
Ouais,
on est grand.
On est gentil.
On est gentil et.
Moi, je dis après le Grand Prix de France. Il faut avoir fait son pronostic au Grand Prix de France et après c'est fini. On clôture.
On clôture donc au 16 mai.
Voilà.
Hein?
J'en profite là vite fait pour parler quand même de l'émission de juin, puisqu'il y aura une action qui sera faite le 18 juin sur la sécurité routière avec des poids lourds, des motos, des voitures, etc. Organisée par la Mutuelle des Motards et la Fédération Française des Motards en Colère. Comme c'est le 18 juin, ce sera en plein milieu de l'émission, on va essayer de les recevoir avant et ils nous présenteront tout ça. Et puis à la rentrée, normalement une émission sur les courses mini-GP, puisqu'on a notre pilote sur Mont-de-Marsan, et donc on fera ça à la rentrée au mois de septembre, puisqu'ils courront sur le circuit d'Escourse. Mmh. Donc il faudra absolument les voir et les soutenir, voilà.
Mmh. Et on va dire ce qu'il y aura à gagner,
ouais.
Au concours.
Alors
hein? Ah ben, un apéro au CMM, voilà.
Allez, c'est bon là.
Allez,
à bientôt.
Profitez bien des beaux jours qui arrivent, là, et soyez prudents.
Donc Facebook, Carbut 40, et un petit pronostic.
Ça marche, salut tout le monde.
Salut à tous.
Ciao. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way.